1 et 2. Salut Marc, ça va bien?
Ouais,
ça va. Ça va très bien. 1, 1. Est-ce que tu me reçois, Josué? 1, 2, 1, 2. Oh oui! On va se donner une petite minute avant de commencer. C'est un cours sur le travail, donc on s'attend à ce que les gens soient à l'heure, comme au travail. Qu'est-ce qu'on va faire quand vous allez partir? Il va falloir qu'on vende vos chaises, quelque chose. Bonjour, bonjour. Vous êtes dans le cours « Le Dieu dans mon travail ». C'est ça que vous vouliez? Super. Le livre? Oh là là! C'est un des livres les plus chers que j'ai vus. 47 $, 48 $. Très cher. Trop cher. OK, bien, je pense qu'on va attaquer. Le cours est bien enregistré, Mr. Technician. Thank you. Merci. Alors, bienvenue dans le cours Dieu dans mon travail. Bienvenue à tous. Si vous désiriez avoir une copie papier, comme à l'habitude, vous aviez une copie à l'entrée. Si vous n'êtes pas inscrit au cours, c'est idéal pour nous que vous vous inscriviez. Donc, sur la feuille qu'il y a derrière, vous pouvez inscrire votre nom, votre adresse courriel, tout ça, ça nous aide un petit peu à voir combien on a de personnes qui assistent au cours, mais aussi, vous allez recevoir à ce moment-là, chaque semaine, un lien vers les notes précédentes, les leçons précédentes sur YouTube. Donc, si vous voulez aller écouter des leçons que vous n'avez pas vues. Deuxièmement, bien, ce cours-là est basé sur un livre de Tim Keller, « Dieu dans mon travail » en français, en anglais, « Every Good Endeavor ». Et puis, le prix est prohibitif en français. Donc, c'est 48 $ pour la version imprimée, pour un livre de 200 pages, je crois. Voilà. Si vous l'achetez en format électronique, moi, je ne suis pas un fan de livres électroniques, mais des fois, ça vaut le coup, c'est 17 $. Donc, c'est 31 $ de moins. Ou bien, vous faites comme moi, vous l'achetez en anglais, puis vous le lisez dans la langue originale. C'est vraiment un bon livre. Excellent, excellent. Donc, on va prier, puis on va un peu mettre la table sur le cours, vous présenter ce qu'on va voir ensemble, puis commencer à attaquer ce très, très beau sujet-là qui est le travail. Seigneur, notre Dieu, merci pour le début des ateliers bibliques. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont pris le temps de se lever un petit peu plus tôt ce matin pour venir étudier ta parole, pour venir retrouver l'Église, les frères et sœurs, grandir ensemble. Je te prie tout particulièrement de bénir ceux qui sont en train de prendre le cours « Découvrir la foi » ou « La bonne nouvelle », le cours de préparation au baptême aussi, Seigneur, c'est tellement des étapes extraordinaires. Alors, je te prie de bénir ça, de bénir nos enfants aussi, les parents qui se lèvent plus tôt, qui amènent les enfants. Seigneur, notre désir, c'est de te connaître intimement, pas théoriquement, mais intimement, de manière concrète. Et quoi de plus concret que le travail, Seigneur? C'est une réalité pour chacun d'entre nous à un moment ou un autre de la vie. Alors, je te demande, Seigneur, de nous instruire, de nous parler, de nous édifier, de nous faire grandir, Seigneur, de nous montrer vraiment la beauté du travail. C'est ma prière, Seigneur, et qu'on puisse découvrir cette vocation et comment tu veux qu'on aborde le travail, Père. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Qui aime travailler? Il y en a qui aiment travailler? Moi, j'aime travailler. C'est terrible. J'aime trop travailler, je pense, mais j'aime vraiment travailler. Écoutez, le cours qu'on fait, Dieu dans mon travail, va avoir deux volets. On va s'inspirer essentiellement du livre de Tim Keller, mais aussi c'est le cours qui est donné par les anciens de l'espoir, les pasteurs de l'espoir. Et donc, je demande à chacun des pasteurs, lorsqu'ils vont venir enseigner, de parler aussi de leur expérience professionnelle, d'accord? Ils ne sont pas tous comme moi qui travaillent seulement le dimanche, n'est-ce pas? C'est une blague. Mais non, mais on a toutes sortes de personnes. On a des gens qui sont chercheurs à Hydro-Québec, il y a des gens qui ont été dans la gestion, dans la vente, arpenteurs. Donc, il y a toutes sortes de domaines aussi professionnels. Et puis, bien évidemment, hein, moi-même, j'ai un travail aussi. Je vais pouvoir faire des parallèles soit avec mes emplois précédents ou avec celui que j'ai depuis 30 ans maintenant, bientôt. C'est ça. Donc, il va y avoir vraiment cet aspect-là personnel. C'est notre objectif. Quelqu'un m'a posé la question aussi, est-ce que c'est utile pour quelqu'un qui est à la retraite de venir au travail? La réponse, c'est oui, et je pense qu'on va y répondre ce matin déjà. On va mettre la table avec ça. En parlant de vocation, on va déjà être en train de répondre à cette question-là, puisqu'on a tous des appels différents à différents moments de notre vie, et ça, c'est la perspective chrétienne du travail. Donc, définitivement, c'est bon pour ceux qui se préparent à travailler, ceux qui sont étudiants peut-être, ou qui ont un emploi à temps partiel, ceux qui ont un emploi actuellement, vous rentrez l'argent à la maison pour pourvoir aux besoins de la famille, ceux qui sont à la retraite. On a tous des vocations et c'est de ça qu'on va parler un peu ce matin, ensemble, des vocations que Dieu nous a données. Puis je vais vous partager un peu mes expériences à moi, mon expérience personnelle. On a toutes sortes d'expériences ou de relations différentes avec le travail. Donc, avant de rentrer dans la matière, j'aimerais ça juste avoir un petit peu de votre expérience à vous. Quand je dis le mot « travail », c'est quoi le mot qui vient à votre esprit? En levant la main, c'est quoi le premier mot qui vient à ton esprit quand je dis le mot « travail »? Pardon? Engagement? Engagement, excellent, merci. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au travail?
Famille.
Excellent, excellent. Vous avez le droit de dire « ça ne me tente pas », c'est ça le mot qui me vient. Oui. Responsabilité, absolument. Quel mot vous vient à l'esprit lorsqu'on dit le mot « travail »?
Argent.
Ben oui, évidemment. Je veux dire, si on n'avait pas besoin d'argent, peut-être qu'on ne serait pas autant porté à travailler, n'est-ce pas? Il y a quand même une logique là-dedans. Un dernier, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on dit le mot « travail » Pardon?
Contrat.
Contrat de travail, exactement. Des ententes, des relations, des patrons. C'est tout ça, hein? Dans son livre, Tim Keller aborde un sujet qui, moi je pense, dans les milieux évangéliques en général, c'est vrai pour notre Église, n'est pas beaucoup, beaucoup développé, n'est pas beaucoup abordé. Je le fais depuis peut-être une dizaine d'années, mais même dans notre Église, je ne pense pas que c'est suffisamment enseigné. C'est toute la notion de vocation. J'ai évoqué ça tout dernièrement là, dans une prédication, mais c'est la notion de vocation. Spécialement dans la théologie protestante, alors spécialement lorsqu'il y a eu la grande réforme protestante, des théologiens super influents comme Luther, comme Calvin, ont vraiment pris le temps de développer cette notion-là que le travail, en fait, c'est une vocation. Une vocation, c'est quoi? C'est un appel. Donc, une différence fondamentale entre un chrétien, et peut-être des gens d'autres religions aussi, je ne sais pas, mais pour un chrétien et, admettons, quelqu'un qui est athée, bien, moi, je crois que Dieu a des appels sur ma vie. Déjà, la vocation d'être chrétien, c'est un appel. Je suis chrétien parce que Dieu m'a fait entendre l'Évangile, donc c'est un appel dans ma vie. Dans mon cas, moi, je suis marié, Dieu m'appelle au mariage. Peut-être que Dieu va appeler mon épouse ou moi à être célibataire. Il y a des probabilités qu'un de nous deux soit appelé à être célibataire éventuellement, n'est-ce pas, qu'un des deux tombe veuf. Et ça va être un appel pour cette saison-là de vie. Dieu nous a donné des enfants, il nous a appelés à être parents, d'accord? Donc, ce sont des vocations. Ça change énormément de choses. Je pourrais avoir cette perspective-là un peu si j'étais athée, en disant « la société reconnaît que tu sais, on te confie telle vocation. Mais c'est déjà différent parce que nous, on pense que l'appel vient de Dieu. C'est, ça vient de loin, là. Quand Dieu a conçu Yannick, dans sa souveraineté, il savait très bien ce que j'allais faire, les dons que j'allais avoir, les capacités que j'allais avoir, même les dons spirituels que j'allais avoir. Donc, Dieu connaissait déjà mes vocations à venir, absolument. Et Dieu me préparait pour ces vocations qu'il allait me donner. Et si on est dans un autre système de pensée, il y a un film, il y a une couple d'années, là, qui est sorti où, en fait, c'est une vieille idée en science-fiction, mais les gens naissaient, puis ils naissaient pour telle catégorie de travail. Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les jeunes qui se rappelle de ça? Tu nais comme tu es un ingénieur, ton ADN est configuré comme ça, tu es un travailleur, puis tu nais comme ça, tu es comme programmé pour ça. Puis en fait, dans une dystopie totale, on pourrait imaginer qu'on joue avec la génétique pour créer, tu sais, des races d'ingénieurs, des races de ci, des races de ça. Bon, peut-être que l'AI va remplacer tout ça, là, finalement. Mais dans des dystopies de science-fiction, on a vu ces idées-là. Nous, on croit que Dieu nous a donné des vocations. Dieu nous a donné des appels. Et donc, tout à l'heure, lorsque je posais la question, est-ce que c'est pertinent pour toi d'être ici si tu es à la retraite? Bien, définitivement, si tu penses que ton appel à la retraite, comme dirait John Piper avec beaucoup de sarcasme, c'est simplement d'aller ramasser des coquillages sur les plages de Floride, bien, tu passes à côté de ton appel. Parce que lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu ne vas pas dire, « Regarde, Seigneur, les beaux coquillages que j'ai ramassés pendant les 25 ans de ma retraite. » D'accord? Non, tu voudrais présenter d'autres choses. Et nos retraités à l'Église de l'Espoir, je peux dire qu'ils le savent, qu'ils ont un autre appel que ça. Ils sont impliqués dans leur famille, avec leurs petits-enfants. Ils sont impliqués dans l'Église. Si vous enlevez tout le bénévolat qu'il y a dans l'Église ici par des retraités, on est mal pris. D'accord? Donc, c'est une autre saison avec une vocation qui va changer. C'est Dieu qui m'appelle à autre chose. Et ça, ça change tout dans ma perspective. Parce que si c'est Dieu qui m'appelle, bien, je le fais comme pour le Seigneur. Donc, mon activité est sainte. Tu es dans une saison de vie où tu as des jeunes enfants, tu es appelé à être à la maison avec les enfants, c'est ton appel, c'est une vocation. Et donc, ça change tout, là, parce que changer les couches ou passer le balai, ou tout devient une activité qui est en quelque sorte spirituelle. Parce que je suis en train de briller pour la gloire de Dieu. Et donc, les tâches les plus banales prennent un sens réel, parce que je suis en train de contribuer, c'est ma contribution, c'est mon appel. Souvent, je parle de Jordan Peterson, puis souvent, je critique son pseudo-évangile. Là, je pense qu'il n'a pas encore saisi tout à fait l'évangile. Mais une des choses que je trouve intéressante qu'il a relevé, puis je ne l'avais pas réalisé comme ça, avant que lui l'exprime aussi clairement, il dit, une société qui fonctionne, d'accord? C'est jamais parfait. Il y a des prisons, il y a des problèmes, il y a des problèmes avec les systèmes qu'on met en place. Mais sérieusement, là, vous n'êtes pas parti de chez vous ce matin en vous disant, j'espère que je ne vais pas... J'ai trois postes, vous voyez, avec des guérillas armés à franchir avant de me rendre à l'église. Ça allait bien de ce côté-là. Vous attendiez à ce qu'il y ait de l'asphalte sur la route, en principe. Il en reste encore au Québec, de l'asphalte sur les routes. D'accord, mais il y a plein de choses. Je veux dire, tu rouvres le robinet et tu ne testes pas ton eau à chaque fois que tu fais couler l'eau. Peterson dit, ça là... C'est un miracle. Une société où on est relativement très en sécurité, où tu peux te présenter à l'hôpital, puis que ça prenne 2 heures ou que ça prenne 36 heures, à un moment donné, on va s'occuper de toi. Il y a un expert qui sait quoi faire avec ta plaie qui est là, d'accord? Il dit ça, c'est un miracle, parce que l'être humain, lui, va dire on est porté vers le chaos, nous, on va dire on est porté vers le péché, la destruction. Et pourquoi est-ce que la société fonctionne? C'est parce qu'il y a plein de gens qui, dans le fond, assume une vocation. Et lorsque tu es chrétien, tu te dis, OK, attends un peu, là. Moi, mon rôle à moi, c'est de ramasser les ordures. Je suis un vidangeur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une ville où on ne ramasse pas les ordures. Quelqu'un qui a déjà vécu ça? Oui, moi, je suis allé dans certains pays et dans certaines villes où on ne ramasse pas les ordures. On les brûle lorsque les montagnes sont assez hautes, d'accord? Où je suis allé à New York dans une période où il y avait une grève des vidangeurs. C'était horrible, la ville de New York, on ne ramasse pas les ordures. Mais c'est banal, le vidangeur. Non, c'est extraordinaire. Ça n'a rien de banal. C'est génial. Voyez-vous? Et donc, quand tu es chrétien, puis tu réalises cette idée-là qu'on a une vocation, Dieu nous donne un appel, la chose la plus banale, comme laver un siège de toilette, ce n'est pas banal. parce que je contribue à cet ordre-là de la société qui est extraordinaire. Et comme chrétien, je peux le faire non seulement pour gagner ma paye, pour que les gens soient satisfaits de mon boulot, mais pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu littéralement en lavant un siège de toilette, en passant un coup de balai, en plaçant des chaises, quel que soit l'emploi, en étant chirurgien, policier, il n'y a pas de tâches qui sont déshonorantes pour un chrétien si c'est l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Et donc ça, je trouve que c'est une notion qui est super intéressante. On va la développer à travers le livre. Tim Keller prend cette approche-là qui vient essentiellement du protestantisme. C'est le protestantisme qui l'a développé. Si vous avez eu le privilège d'aller à Genève, de visiter Genève, qu'on vous explique un peu la culture du travail de Genève, ça vient de la réforme protestante, d'accord? Et je l'ai déjà partagé, je pense, avec l'Église, mais une des choses qui se passait à Genève, alors que Genève était un refuge, c'était un refuge pour les exilés religieux, ceux qui étaient persécutés par-ci, par-là, et donc ils quittaient complètement tous leurs biens, laissaient la maison derrière de peur d'être mis à mort, allaient se réfugier à Genève. Et ce que Calvin avait organisé, c'est que ces prédications qui étaient écrites sur papier, on faisait des copies, puis on les louait. Okay? Jusque-là, ça a l'air étrange. On louait les prédications de Jean Calvin parce qu'il avait eu cette idée, il s'est dit, mes prédications sont demandées, ça va générer des revenus. Et là, ils ont commencé le microcrédit. Vous savez c'est quoi le microcrédit? Donc, tu arrivais à Genève, tu disais, moi, je suis cordonnier, mais j'ai tout perdu. J'ai besoin de me refaire un atelier, j'ai besoin d'avoir des outils, tout ça. Parfait, microcrédit, on te prête de l'argent. Quand tu vas faire assez d'argent, viens nous rembourser, on va prêter à quelqu'un d'autre. Littéralement, c'était ça l'idée. Donc, quand je vous dis qu'il y a une culture du travail, de cette vocation-là qui vient des protestants, littéralement, c'est vécu là. Et donc, ça fait partie de l'histoire de cette ville-là. Pour nous, chrétiens, cette idée-là d'une vocation, c'est extraordinaire. Parce que j'en ai plusieurs et ça change ma perspective des choses. Donc, que tu sois pasteur ou que tu sois préposé aux bénéficiaires, ta vocation est tout aussi noble. Que tu sois à la maison, que tu sois retraité en train de prendre soin de tes petits-enfants dans cette saison de vie-là, ta vocation est tout aussi noble. Parce que c'est un appel de Dieu sur ta vie. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant. Ça m'aide à accepter des tâches qui sont peut-être ingrates, qui ne sont pas valorisées par la société parce que je les fais comme servant le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on voit le travail. Des fois, on a l'impression que notre travail ne sert à rien. Puis j'aime bien cette... je vous encourage à aller l'écouter peut-être sur YouTube ou quelque chose, là, mais Life of Nagel, qui raconte au tout début de son livre, je trouve ça vraiment intéressant comme parabole. Vous connaissez G.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux? À un certain moment donné, dans son processus d'écriture, G.R.R. Tolkien, c'était un perfectionniste, OK? Maniaque. Avant d'écrire Le Seigneur des Anneaux, il avait déjà composé plusieurs langues qu'on allait avoir dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, l'elfique, il l'avait déjà pensé, écrit avec les structures de langue. Puis dans sa tête, il était vraiment en train de créer un univers, d'accord? Et donc, à un certain moment donné, dans le processus, il se rendait compte que ça devenait complètement fou, son truc, parce que finalement, il pouvait passer toute sa vie à créer cet univers-là sans jamais écrire les romans. Parce qu'il était toujours en train d'aller plus loin dans, OK, les origines de telle race, ça vient de tel endroit, puis les origines de là, puis là, il allait dans les mythes fondateurs. Donc, Tolkien, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il nous parle des elfes, mais il y a les mythes fondateurs de ces peuples-là, puis tu peux aller très, très loin. Et à un certain moment donné, il est en train de s'épuiser lui-même dans son perfectionnisme. Il y en a des perfectionnistes ici? Moi, Dieu merci, je ne suis pas frappé par cette terre. Je ne suis pas perfectionniste. Mais non, c'est merveilleux d'être perfectionniste, mais ça a ses limites aussi. Fait qu'un matin, Tolkien se réveille, puis là, il y a un récit qui lui vient à l'esprit, Nagel. Nagel, c'est... Et donc, il a écrit le récit de Nagel. Nagel, en vieil irlandais, ça veut dire comme travailler pour rien faire. Tu sais, travailler un peu sans que ça mène à rien. Puis Nagel, dans le récit, c'est un peintre perfectionniste qui se réveille un matin puis il a une vision extraordinaire d'un arbre magnifique qui raconterait comme l'histoire à quelque part de l'univers. Et là, il voit tellement parfaitement qu'il commence à peindre une feuille pour son arbre. Je pense qu'on a des images, là, mais il commence à peindre une feuille pour son arbre pour représenter ce travail-là. Puis là, il y a toutes sortes de distractions parce qu'on vient lui demander de l'aide pour aller aider des gens, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Et finalement, à la fin de sa vie, lorsqu'on entre chez lui, ce qu'on trouve, c'est un tableau avec une feuille, qui est extraordinaire, mais c'est une feuille. Et lui, désespérait de se dire, mais finalement, j'ai rien fait. De toute ma vie, dans ma création, dans mon œuvre de création, tout ce que j'ai fait, c'est une feuille. Et là, Nigel arrive à quelque part au ciel, et il y a deux voix qu'il entend. Une voix qui l'accable en lui disant, regarde, c'est quoi l'œuvre de ta vie? C'est insignifiant. Tout ce que tu as fait dans toute ta vie, c'est une feuille. Et il y a une autre voix qui est la voix de la miséricorde qu'il entend et qui l'entraîne. Et lorsqu'il se dirige vers cette voix, il arrive devant l'arbre qu'il avait imaginé, qu'il avait vu dans sa vision, entièrement complété. Et la morale de cette histoire-là, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, connaît nos petites contributions. Dans sa souveraineté, un peu comme lorsqu'on dit, « Oui, mais j'ai annoncé l'Évangile 300 fois à mes enfants, qu'est-ce que ça donne? J'ai croisé quelqu'un dans le métro, j'ai annoncé l'Évangile, je ne sais pas ce que ça donne. » De la même manière, toutes ces petites tâches qu'on fait dans le plan souverain de Dieu, Dieu sait ce qu'il est en train de nous faire construire. Et ça change tout pour nous parce qu'on est convaincu de cet appel de Dieu. Et Dieu saura nous dire dans l'éternité ce qu'on a contribué à son œuvre. On est des serviteurs au service de Dieu. Mais souvent, si on est chrétien et on a réfléchi un peu sur le travail, j'aime bien Keller sort une couple de questions qu'on peut se poser comme chrétien lorsqu'on envisage le travail. Si tu veux comme trouver un sens à ton travail, voici le genre de réflexion que tu pourrais te faire. La manière de servir Dieu au travail, c'est d'aider à une plus grande justice sociale. Tu travailles dans la santé, tu aides des gens qui sont dans la difficulté. Tu trouves un sens à ton travail à travers le fait que tu apportes de l'aide à des gens qui sont dans le besoin. Une manière de servir Dieu au travail, c'est d'être honnête, hein? Être déjà un employé honnête, puis d'annoncer le Seigneur. C'est tout à fait vrai. Une manière de servir Dieu au travail, c'est simplement de chercher à bien faire mon travail. Là, je pense à mes amis suisses, à bien faire le travail avec rigueur, avec sérieux, avec excellence, comme pour le Seigneur. Une manière de servir Dieu au travail, c'est que le travail nous permet de créer de la beauté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ça. Dieu merci, les architectes ne font pas juste des blocs de béton. Il y en a de temps en temps qui trouvent un peu de budget pour dire « on pourrait faire quelque chose de beau ». Une manière de servir Dieu au travail dans une motivation chrétienne de glorifier Dieu, de s'engager, peut-être même d'influencer la culture au travail. Puis dire, regarde, je vais changer l'atmosphère à mon travail. Une manière de servir Dieu au travail, c'est simplement d'être reconnaissant pour le travail. Rentrer au travail comme un chrétien, c'est dire, merci Seigneur pour le travail. Ce sont tous des bonnes réponses. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça. On doit développer une vision du travail qui est beaucoup plus grande que ça. Parce que Dieu nous a conçus pour le travail, parce que Dieu est un être qui travaille. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais en fait, le travail, pour nous, c'est une manière de refléter la personne de Dieu. Nous, on voit Dieu comme un être tout-puissant, hein? Donc, est-ce qu'il travaille? Il dit, puis la chose est. Il veut, puis la chose est. Mais les Écritures nous disent que Dieu travaille. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir quelques passages ensemble. Pour essayer d'avoir une bonne vision du travail, une bonne théologie du travail. Vous pouvez tourner avec moi dans Genèse. Genèse 2, 15. Au commencement, il y avait le travail. Intéressant. Au commencement, il y avait Dieu. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il travaillait. Et c'est présenté comme le travail, parce qu'après le travail, il y a le repos aussi. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu crée l'être humain. littéralement. Dieu crée les astres, Dieu crée les eaux, la lumière, Dieu crée les plantes, Dieu crée l'être humain. Dieu crée et il nous ordonne à nous ensuite de prendre soin du jardin, littéralement. C'est intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez du passage dans Jean 5, 17, je ne l'ai pas noté au complet, mais Jésus dit quelque chose comme « Jusqu'ici, mon Père travaille, moi aussi j'entre dans son travail. » Vous vous rappelez de ce passage-là? Intéressant, puisqu'on est dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans cette phase-là de la création, mais on est plutôt dans l'idée que Dieu, dans sa providence, hein, dans sa provision, dans sa souveraineté, il est en train de réaliser tous ses projets, tous ses plans, tous ses desseins. Et donc, Dieu est à l'œuvre. Et Jésus va dire, « Jusqu'ici, mon Père travaille, moi aussi je travaille. » C'est vraiment intéressant, parce que Dieu est en train de travailler à la réalisation du plan de rédemption, entre autres. Ailleurs, les psaumes vont nous dire que Dieu soutient toutes choses. Vous réalisez que si Dieu décidait de prendre une pause, de soutenir l'univers, ça serait, c'est quoi le contraire du Big Bang? Ça serait l'implosion totale. Si Dieu décidait d'arrêter ça. Les Écritures nous disent que Dieu porte attention à chaque instant à l'univers qu'il soutient. Mais il fait aussi une œuvre de rédemption. Et là, Jésus est dans ce travail-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire comme œuvre actuellement? Vous avez une idée? Comme une construction? Quiz, Mme Caout est en train de bâtir son Église. Ça ressemble à du travail. Christ est en train de bâtir son Église. Il est en train d'élever un édifice. On va en parler tout à l'heure dans la prédication, d'ailleurs. Et donc, au commencement, il y avait le travail. Avant même que l'être humain existe, il y avait le travail. Il y avait Dieu qui était en train d'œuvrer, littéralement. Et donc, cette vision que le travail, c'est comme le fruit de la chute. C'est pas biblique du tout comme notion. Je viens dans un instant, la chute a des conséquences. Mais l'idée que le besoin de travailler soit l'effet de la chute, c'est pas une vision biblique. C'est inscrit dans notre ADN que nous allions être des travailleurs, qu'on allait faire des choses. Dieu place Adam et Ève dans le jardin, puis il dit maintenant, cultivez ce jardin-là. Entretenez ce jardin-là. Donc, Dieu a travaillé, Dieu s'est reposé. Et là, Dieu place Adam et Ève dans le jardin, avant la chute. Il leur dit, au travail. C'est inscrit dans notre ADN. Si ta vision du travail, c'est une malédiction, et que pour toi, tu dis, la bénédiction, c'est la retraite quand j'aurai plus à travailler, ce n'est pas une vision biblique du travail que tu as. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agrément dans la retraite, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'on devrait ralentir en vieillissant, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette vision très, très, très occidentale, je dirais très nord-américaine, de dire que tu sais, tu travailles pour, dans mon temps, on disait liberté 55. Ah ben là, je vais avoir 55 ans là, dans quelques semaines. Moi, la liberté, je l'ai connue en Jésus. C'est tout. Après ça, j'ai la liberté de travailler. C'est parfait. On s'ajustera quand je serai plus capable de travailler autant. On passera à une autre phase. D'accord? Mais voyez-vous, c'est une bénédiction. Et donc, si vous êtes de ces gens qui travaillent 5 jours par semaine pour le week-end, il y a quelque chose de profond à réformer. Et je ne suis pas en train de dire que le travail est agréable, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que le travail est une vocation qui est inscrite dans notre ADN. Et je devrais voir le travail, que ce soit celui d'être à la maison avec des enfants, que ce soit celui de prendre soin de mes petits-enfants, parce que je suis à la retraite, puis je suis en train de servir à l'église par-ci, par-là, je viens servir à Bouffe pour tous, que ce soit celui d'étudier. Ta job actuellement, c'est d'étudier pour te préparer pour une autre vocation. Ta vocation actuellement, c'est d'étudier pour te préparer à construire cette société-là. Ce n'est pas une malédiction. Même si tu n'aimes pas ta job, ce n'est même pas une malédiction. Je vais vous parler de mon expérience à moi dans quelques minutes. J'ai un ami à moi, Yves Ferland, m'a partagé il y a 2-3 ans quelque chose que son père lui disait. Son père était couvreur, donc les toitures, puis Yves a fait ça aussi. C'est des jobs assez rough, hein, physiquement. Là. Si vous connaissez des couvreurs, là, disons qu'il y a de l'arthrite qui se met dans ces grosses pattes d'ours-là lorsqu'ils vieillissent, parce que c'est vraiment, vraiment exigeant. Puis Yves me disait, donc Yves a appris son métier avec son père, d'accord? Puis son père disait à Michel et Yves, il leur disait, « Venez-vous-en les petits gars, on va aller se reposer en travaillant. » J'ai vraiment aimé ça. Venez-vous-en les petits gars, on va aller se reposer en travaillant. Parce qu'il y a une manière de travailler que tu te dis, mais c'est ça qu'on fait aujourd'hui, puis on ne va pas flipper, là. On va faire une tâche à la fois. On est en train de faire quelque chose de noble. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est une vision qui se rapproche de la vision biblique. Maintenant, il y a un repos du travail aussi. Il y a une limite au travail. Parce que Dieu lui-même va se reposer de ses œuvres. Donc, il y a une place pour le repos où je m'arrête de travailler. Puis là, je dis, Dieu a pourvu. Donc, je peux m'arrêter puis rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a pourvu. Je peux me payer une journée de congé. Je peux me prendre un temps de repos parce que Dieu a pourvu à travers le travail qu'il nous a donné pour avoir un temps d'arrêt. Amen, c'est merveilleux. J'ai souvent dit à l'Église ici, dans notre société occidentale, on confond complètement une théologie du loisir avec une théologie du repos. Et souvent, nos loisirs ne sont pas reposants du tout. Tu sais, quand ton loisir est tellement important dans ta vie que tu vas passer une nuit à gamer avant d'aller faire un examen à l'université, il y a un problème. Dans ta théologie du repos puis ta théologie du loisir, là, il y a quelque chose de dysfonctionnel. Tu aurais dû dormir avant d'aller faire ton examen, mais tu étais pris dans ton loisir pour te reposer de ton 2 heures d'études. Fait que là, tu passes la nuit à gamer, puis là, tu t'en vas travailler. On a des problèmes ici. Puis, je veux dire, ça ne se guérit pas en ayant un emploi. Hein? Donc, c'est une des réalités, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font ça aussi puis qui vont travailler. Il y en a qui peuvent rire de ça, n'est-ce pas? Bon, ce n'était pas un problème à mon époque, à moi. Les jeux n'étaient pas si passionnants que ça. C'était peut-être pas aussi immersif que vous. À un moment donné, tu allais te coucher. Mais donc, il y a une limite au travail, c'est vrai. Il y a une place pour le repos, mais le travail est une bénédiction. Le travail est inscrit dans notre ADN. C'est ainsi qu'on ressemble à Dieu. Et on va voir à travers la série, on cherche à découvrir nos vocations à travers ça. Tout simplement. Vous connaissez la chanson de Félix Leclerc, « Il y a 100 000 manières de tuer un homme ». Est-ce que vous connaissez ça? Ceux qui ne connaissaient pas Félix Leclerc, allez sur YouTube, cherchez ça. Vous allez le trouver rapidement, c'est lui qui chante. Une petite chanson ironique, mais qui a un grand fond de vérité. Et donc, à travers ça, il raconte toutes les manières qu'on peut tuer un homme. Puis il y en a qui sont plus efficaces, d'autres moins efficaces. La strangulation, toute la quête. Mais il dit « la pire manière de tuer un homme ». C'est de le payer à rien faire. C'est de le payer à rien faire. Puis il termine sa chanson en disant, ce que ça donne, des chômeurs qui sont payés à rien faire, c'est des morts vivants qui marchent dans les rues de la ville. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très pernicieux pour l'être humain que l'oisiveté, ça nous conduit dans l'oisiveté. Ceux qui travaillent dans le domaine de la construction, puis vous avez des grands temps d'arrêt comme non planifiés, là, vous savez de quoi je parle, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai passé avec des gars dans la construction qui, dans ces moments d'arrêt-là, retombent dans tous leurs vieux vices, dans leurs vieilles dépendances. C'est le travail qui les aide à avoir de l'ordre dans leur vie, puis là, ces grandes pauses-là deviennent des endroits où ils se mettent à boire, toutes sortes d'affaires. Tout simplement parce que ça devient oisif. Je pense qu'il y avait beaucoup de vérité dans cette chanson-là de Félix Leclerc. Beaucoup de vérité. Vous êtes retraité, votre travail continue, vous servez, vous priez, vous mentorez, vous faites des disciples, vous servez dans l'Église, vous servez votre famille, vous servez les enfants, les petits-enfants. Ceux qui sont actifs, votre vocation, c'est de vous préparer pour le travail. Vous étudiez pour vous préparer pour ça, vous avez un emploi, c'est une de vos vocations. Vous êtes en train de servir au bureau, au chantier, dans un laboratoire, comme pasteur. Les nouveaux arrivants aussi. Pour les nouveaux arrivants, se trouver un emploi, c'est critique. Pour beaucoup de nouveaux arrivants, une grande partie de votre patrimoine, de vos économies sont investies dans ce projet-là. Et là, il faut tout reconstruire, hein, pour plusieurs. Il faut rebâtir tout ça parce que tout a été investi dans ce projet-là, cette immigration-là. Souvent, c'est le cas. Et donc, le travail devient super important. Mais il faut aussi réaliser qu'à travers ça, Dieu vous appelle à le glorifier. Dieu vous appelle à construire cette société-là. Il y a un moment où je passe le mode survie, Dieu voulant. Donc, laissez-moi vous partager juste ma perspective ou mon expérience à moi qui travaille le dimanche matin de 9 à midi. J'ai eu quelques emplois avant d'être pasteur. Mon premier emploi, là, on va oublier passer des journaux, là, mais ça a été plongeur. J'étais plongeur, laveur de vaisselle. Mon chum m'appelle, je ne sais pas, je pense que j'avais 15 ans. Je ne sais même pas si j'avais le droit de travailler avec un emploi comme ça à cette époque-là. Mon chum m'appelle et il dit, le lave-vaisselle du restaurant est en panne, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, pendant quelque chose comme 2 semaines, on a remplacé le lave-vaisselle à 2. Puis, savez-vous quoi? J'ai trippé. C'était tellement physique, j'ai tellement... Honnêtement, là, c'est un de mes emplois préférés à vie. C'est physique, je me donnais à fond, c'était satisfaisant. Tout était propre, la cuisine était propre. Le chef n'en revenait pas de voir ce qu'on faisait avec sa cuisine. Vous allez me dire, c'est bête, là, mais je suis très, très honnête avec vous. Là. J'ai des souvenirs extraordinaires d'être plongeur. Puis si vous en doutez, demandez à ma femme si j'aime faire la vaisselle. D'accord? Moi, j'aime frotter des chaudrons. Il n'y a pas de problème. Si vous m'invitez à souper, je vais frotter tous vos chaudrons. Il n'y a aucun problème. Mais ça a été pour moi une expérience où je dis, c'est satisfaisant de travailler dur. J'ai aimé ça. C'est la première fois comme que j'avais une job. Avant, bien sûr, j'avais des tâches à la maison, mais c'était comme plutôt ma mère devait me harceler pour que je fasse mes petites tâches ménagères. Tu sais, puis on négociait, on essayait de se négocier une paye pour ça. Mais là, j'ai découvert une job, un vrai job. Génial, j'ai vraiment aimé ça. Après, j'ai pu, grâce à une expérience dans un camp, j'ai pu travailler comme préposé aux bénéficiaires. Alors, pendant que je faisais mes études comme éducateur spécialisé, j'étais préposé aux bénéficiaires dans un centre d'accueil pour personnes âgées. Et là, ça a été tout un autre niveau de travail. J'ai découvert la dignité humaine. Écoutez, je n'étais pas vieux, là, j'avais 17 ans. Je m'occupais de personnes qui avaient 80 ans. Je changeais littéralement leur couche, je lavais leurs dentiers, alors qu'ils étaient en train de perdre la tête, ils étaient en train de devenir séniles. Et j'ai été tellement heureux de faire ce travail-là. Il y avait des aspects que je n'aimais pas, évidemment. Là. Je suis plutôt dédaigneux. Fait qu'il y avait des aspects qui étaient très difficiles pour moi. Mais je voyais la personne qui était devant moi. Puis moi, les préposés aux bénéficiaires, là, qui commencent à parler aux patients en disant « Viens-t'en, ma petite madame, viens, mon petit Georges, on va faire ça. » J'ai jamais été capable d'endurer ça. Non, j'ai une personne qui a 60 ans de plus que moi devant moi. Là. Comment est-ce que vous voulez que je vous parle? Si tu insistes pour que je t'appelle Martine, je vais t'appeler Martine si ça fait que tu te sens bien. Mais autrement, pour moi, c'est Madame la douceur. Là. Parce qu'il y a une dignité qui est là. Et je vais me rappeler toute ma vie, il y avait une dame, une de nos plus âgées, qui avait toute sa tête, mais pas tout à fait toute sa tête. Elle faisait beaucoup d'insomnie la nuit. Et quand j'étais dans son département, quand j'avais une chance, quand j'avais fini de m'occuper de tous mes patients, mes bénéficiaires, je m'en allais m'asseoir avec elle, je lui apportais une pomme, puis je mangeais une pomme tranquillement avec elle, je lui partageais ça. Puis là, elle me racontait son enfance. Souvent, c'était super. Des fois, elle délirait. Là. Bon, je voyais qu'on était en train d'halluciner, là, on n'était pas dans la réalité. Mais souvent, elle me racontait des histoires de son enfance. Donc, pour moi, cette vocation-là d'être préposé aux bénéficiaires, là, j'ai découvert la dignité humaine à travers ça. Ça a été extraordinaire. Ça me définit. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Prendre soin de quelqu'un qui est en train de décrépir, pour moi, ça n'enlève aucune dignité à cette personne-là. Après, j'ai travaillé comme éducateur spécialisé pendant que je faisais des études en théologie et je suis tombé en amour avec les gens qui naissent avec une trisomie. À l'époque, on appelait ça des clientèles. Dans toutes les clientèles avec qui j'ai travaillé, c'était mes préférés. Je suis tombé en amour avec ces gens-là. Ils étaient juste extraordinaires, affectueux, merveilleux. Mais j'ai travaillé avec des déficients intellectuels profonds, là. Des gens qui font rien de leur vie. J'ai travaillé dans un centre d'accueil où c'était des multi-handicapés. Déficience profonde, mais multi-handicap physique. Fait que je me souviens de Stéphane, qui était hydrocéphale. À l'époque, on ne savait pas quoi faire avec ça. Vous savez ce que c'est l'hydrocéphalie? Accumulation d'eau dans la tête, mais à une époque où on ne savait pas comment traiter ça. Et donc, ces gens-là devenaient avec, j'exagère pas, là, je vous dis, je n'exagère pas, du front au derrière de la tête, comme ça. D'accord? J'exagère pas. Ça de large. Sodo. Dans le fond, il est alité toute sa vie parce qu'il se casserait le cou à essayer de bouger sa tête. Et là, il y a une déficience intellectuelle qui est induite par l'eau qui compresse le cerveau, qui se développera jamais au complet. Et sa vie, c'était d'être alité. Puis on allait parler avec lui, il pouvait dire 3-4 mots. Mais la dignité de cette personne-là, puis d'être là, puis de prier pour cette personne-là, ça a été extraordinaire pour moi comme expérience. Puis après ça, j'ai eu le privilège d'être appelé au ministère pastoral. Et là, ça a été un autre apprentissage. Fait que je vais juste vous partager un peu mes expériences à moi avec le travail. Mais évidemment, être pasteur, bien, je fais souvent des blagues, là, si on travaille le dimanche. La vérité, c'est un de nos profs, Jacques Alexandrian, Michel, tu as sûrement entendu ça de la part de Jacques, il disait, le ministère pastoral, c'est la meilleure place pour faire soit un burn-out, soit rien faire. Si tu te présentes le dimanche avec un sermon, tadam, tu as l'air d'avoir fait ton travail, tu peux faire pas grand-chose dans ta semaine, ou tu peux juste travailler comme un fou toute la semaine à faire des visites, aller voir tout le monde. Ça finit jamais parce qu'il y a toujours des besoins. À partir du moment où tu es vraiment disponible, c'est sans fin, ça. Et moi, j'aime le travail. Encore à 55 ans, faire 60 heures dans une semaine, il y a quelque chose d'excitant pour moi là-dedans. Ça me stimule, cette idée-là. Hey, cette semaine, j'ai fait 65 heures. Je sais que c'est insensé, là. Je comprends l'idée, mais ça m'excite encore. J'aime vraiment le travail. Donc, dans mon cas, à moi, là, une des choses que j'ai dû apprendre, c'est apprendre à gérer mon temps. C'est comme un travail de travailleur autonome, être pasteur. Bon, l'Église est plus grande, fait qu'on a des équipes, on travaille ensemble, il y a un petit peu plus de redevabilité, mais quand l'Église est plus petite, tu es seul dans ton coin et tu gères ton temps de A à Z, là. Et tu peux brûler ta famille, être absent. Et donc, il a fallu que je m'entoure de gens pour réussir à comprendre c'est quoi ma vocation. Mais là, s'ajoute à ça, vous comprendrez, mon travail à moi, il est différent de la majorité des emplois, c'est que mon travail, c'est dans ma famille spirituelle où vit ma famille naturelle. Ça commence à être compliqué, là, parce que les contours sont très difficiles à définir. Vous comprenez, quand j'arrive ici avec mes enfants, bien, tout le monde à l'église dit, « Ah, c'est les enfants du pasteur, ça. On va voir comment ils se comportent, ces enfants. Est-ce que le pasteur est encore qualifié? Est-ce qu'il... » C'est tout ça, là, vous comprenez? C'est tout ça, la réalité, là. Hop, puis là, ton épouse est impliquée, tes enfants sont là, toi, tu es là. Il y a plus... C'est très difficile de définir les contours. Puis là, émotivement, c'est un paquet d'affaires. Je vous l'ai dit, quand je suis revenu de vacances, j'ai commencé à prêcher, puis j'ai dit, moi, le retour de vacances, une semaine avant, j'ai le vertige. Je commence ma semaine de travail, je rencontre les collègues au bureau, les gens qui sont impliqués dans la semaine. Puis le dimanche matin, c'est comme... Je retrouve la famille. Depuis plusieurs années, c'est comme ça. Donc, c'est ma famille. Et moi, mon travail, c'est ma famille. Puis, il y a comme, ça ne s'arrête pas. En plus, on fait du sport ensemble maintenant. On n'en finit plus. On va même dans le bois ensemble avec certains d'entre eux. Et donc, une des choses que j'ai dû apprendre, c'est à mettre des contours. Ça a été une de mes réalités à moi, dans mon travail à moi. La discipline, structurer mon temps, organiser mon temps, c'est des choses que j'ai dû apprendre. À dire, être pasteur, c'est pas être un professionnel, c'est une vocation. Mais tu ne veux pas faire ta vocation en amateur. Vous me suivez? Je ne veux pas faire ma vocation en amateur, je veux bien le faire. Donc, si on organise des réunions, puis là, je m'assois avec des gens dans la réunion, que eux, c'est tous des experts en réunion. Je pourrais vous en nommer ici, là, on a plusieurs experts en réunion. Ils ont fait des MBA pour faire des réunions, tu sais. Fait que quand tu t'assois avec eux, ils savent comment faire un plan stratégique. Toi, tu dis, un plan de lecture de la Bible? C'est ça que tu veux dire? Non, un plan stratégique. Mais là, moi, je ne veux pas être un amateur. Donc, je vais essayer de bien faire. Mais je ne veux pas que ma vocation soit juste une profession. Je ne suis pas un professionnel qui s'en va négocier son contrat de travail. Parce que c'est une vocation, je suis engagé dans une œuvre qui est différente. Et donc, apprendre à départager ça. Après, moi, ce que j'ai dû apprendre aussi, c'est de dire, bien, il y a ma vie spirituelle, puis il y a mon service spirituel dans l'Église. Hey, ça se mélange, ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour que toutes tes méditations de la Bible deviennent des prédications. Vous comprenez? Tu es en train de lire la Bible, puis tu commences à voir un message, là. Tu dis, OK, phew, j'ai le message pour dimanche prochain. Mais là, si tu passes la semaine à étudier la Bible pour préparer des messages, Est-ce que tu es encore capable d'aller dans la Bible pour ne pas préparer des messages, puis juste dire « Jésus, parle-moi » parce que vous vous attendez à ça de moi, n'est-ce pas? Que je sois un homme qui prie, à qui Dieu parle. Oui, mais moi, chaque fois que j'ouvre la Bible, c'est pour répondre à des questions. Et là, on fait le plan de lecture de la Bible, puis il y a des gens qui me posent des questions. C'est génial, continuez à poser des questions. Mais vous comprenez, là, pour moi, mon temps de dévotion peut devenir le moment où j'écris une méditation pour tous les gens qui sont avec nous dans le plan de dévotion. Puis je vais lire les questions que les gens avaient sur les passages des journées précédentes. Puis dans tout ça, je suis censé dire, « Qu'est-ce que tu veux me dire, Jésus, pour ma journée? » Oui, il a fallu que j'apprenne à faire ça. Ça, c'est les particularités de mon travail à moi, de la réalité de pasteur. Je veux juste vous partager mon expérience à moi. Quelques conseils. Après, je vais vous donner des devoirs, d'accord? Le cours touche à sa fin, mais vous allez partir avec quelques devoirs. Pour tout le monde. Mais j'ai pensé à ceci. 3 conseils pour les 20 à 30 ans. Ou pour les 15 à 30 ans. Il y en a qui sont plus vieux que 30 ans juste ici, là, mais pour ceux qui ne sont pas vieux comme moi, d'accord? Sur le travail, parce que je pense qu'il y a un défi aussi avec les générations qui viennent. Vous avez plein de qualités, plein de défauts comme nous. Apprendre à travailler, même quand tu n'aimes pas ton travail, c'est une des choses les plus importantes avec le travail. Apprendre à aimer travailler, c'est une des plus grandes qualités. Pourquoi? Parce que le travail forme le caractère. Tu deviens un homme, une femme de Dieu quand tu prends plaisir à faire des choses difficiles. Et une des réalités avec le monde virtuel qui est à notre portée, c'est qu'on peut vivre virtuellement des choses tellement plus exaltantes que dans la réalité. Je suis en train de suivre de ce temps-ci sur YouTube des gars qui construisent des cabanes dans le bois. C'est extraordinaire. T'sais, bon, vous savez, vous connaissez mon amour pour la forêt. Fait que je regarde ça, je trouve ça extraordinaire. Puis là, je me dis, fait que j'en ai écouté un hier, là, juste pour me reposer un peu. Il a pris un hiver complet à construire sa cabane dans le bois. Donc, il a dormi dans une tente, chauffé tout l'hiver, puis il a construit sa cabane dans le bois. Puis je me suis dit, c'est plus intéressant à regarder le vidéo que de le faire. Disons que le virtuel m'attirait plus que la réalité à ce moment-là. Et c'est une des réalités pour les plus jeunes générations qui sont hyper connectées. Vous devez apprendre le vrai plaisir de travailler dur. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, trouve-toi un job que tu n'aimes pas, fais-la. Puis apprends à aimer juste le plaisir du travail bien fait. Premier élément que je voulais vous partager. Deuxième élément, cherche un domaine après, une fois que tu as appris à travailler fort, cherche un domaine qui est aligné avec tes aspirations. Moi, je crois profondément qu'on a un père qui est bon et je vais prendre le premier emploi qu'on va me donner. Je m'en contrefous, c'est quoi? Même servir dans l'église. Hein? J'arrive puis on me dit, Yannick, tu vas passer la mop pour les 3 prochaines années. Si ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Je vais passer la mop. Mais une fois que j'ai trouvé un emploi, après ça, je vais prier puis je vais dire, Seigneur, j'ai des désirs. J'ai des aspirations. Je crois qu'on a un bon père qui très souvent va nous donner selon nos aspirations. Donc, si tu veux découvrir ta vocation, c'est absolument à propos que tu écoutes tes aspirations. C'est même vrai pour l'ancienat. Celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre honorable. Donc, c'est même vrai dans le cas d'être pasteur. Moi, personnellement, mon premier indice que j'étais appelé au pastorat, c'est que j'aspirais à être pasteur. Dans la première année de ma vie chrétienne, je suis allé voir Richard Roule, puis je dirais, j'aimerais ça prendre votre place. J'étais un peu jeune, je n'ai pas formulé comme ça, mais vous comprenez, c'était déjà là, ce désir-là. Donc, une fois que tu as appris à travailler dur, à faire des choses que tu n'aimes pas, écoute tes aspirations, mets-les devant Dieu. Puis ensuite de ça, vois si Dieu t'a donné des talents ou des dons pour faire ça. Parce que quand tu veux clarifier tes vocations, bien, il y a des talents. Dieu donne le nécessaire pour le faire. Ce n'est pas tous les gens qui désirent avoir des enfants qui peuvent en avoir parce que Dieu ne donne pas à tous les couples mariés de pouvoir avoir des enfants. Par exemple, bon, mais c'est vrai aussi pour le travail. Moi, si j'avais désiré être chanteur d'opéra, je n'aurais pas vécu richement. J'aurais vécu très humblement dans le métro de Montréal à chanter. C'est correct. Fait que sois attentif aussi aux dons, aux talents que Dieu t'a donnés. Tu es en train de découvrir ta vocation. Et puis enfin, mon dernier conseil, c'est laisse Dieu ouvrir et fermer des portes. Aie confiance dans la providence de Dieu pour te guider aussi à travers ça. Quand quelqu'un me dit, Yannick, ça va faire 30 ans que je sers ici à l'Église de l'Espoir. Pourquoi je suis encore ici? Parce que Dieu ne m'a pas libéré encore. Pas que je suis en prison, là. Mais Dieu ne m'a pas dit, c'est terminé. Je lui ai demandé à quelques reprises, j'ai eu l'opportunité, on m'appelait, des opportunités d'ailleurs. Puis si vous me demandez à moi, là, vous m'entendez parler de forêt, là. À mon âge, c'est clair, j'aimerais mieux vivre en campagne, je vous le dis. Je suis très franc avec vous. J'aime énormément les villes. J'y passerai un week-end, puis ça me suffirait. D'accord? Donc, on est bien collé sur le parc Michel Chartrand, là. Ça fait une petite bouffée d'air. Mais pourquoi je suis ici? Parce que dans la providence de Dieu, Dieu ne m'a pas libéré encore. Et donc, je crois que c'est mon appel pour cette saison-ci. Donc, juste quelques conseils que je voulais donner à ceux qui cherchent encore leur vocation. D'accord? Apprenez à travailler dur et à y prendre plaisir. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu as développé ça, mes amis, que tu es équipé pour avancer dans la vie. Deuxièmement, écoute tes aspirations et place-les devant Dieu. Dieu parle à travers nos désirs. Définitivement, c'est tout à fait biblique. Troisièmement, sois attentif aux dons que Dieu t'a donnés, aux talents que Dieu t'a donnés, à ce que les gens te reflètent. Les gens vont te confirmer ou non. Puis ça ne veut pas dire que c'est toujours clair, là. Lorsqu'on a fêté mes 40 ans à l'Église, on a fait écouter un extrait de ma première prédication que j'avais faite à Sambec. C'était horrible, d'accord? Ils l'ont fait jouer pas pour s'édifier, pour rire de moi. Toute l'Église, mais sérieusement, c'était pathétique, là. Puis après ma première prédication, toute la classe, de manière unanime, m'ont dit, « T'es pas appelé au pastorat, Yannick, c'est sûr, sûr, sûr. » Littéralement, je suis rentré à la maison en pleurant. J'avais pris en note tous les conseils, toutes les critiques qu'ils m'avaient dit, parce que je prêchais la semaine suivante, puis j'ai dit à Dieu, « Seigneur, si la semaine prochaine, l'évaluation n'est pas sérieusement meilleure, c'est correct. J'ai compris, tu m'as parlé, je ne suis pas appelé au ministère. » Alors, Dieu merci, la semaine d'après, il y avait assez d'amélioration pour qu'ils disent, « Ah, peut-être. Peut-être que tu es appelé au pasteur. » Mais donc, j'écoutais les gens autour de moi pour discerner l'appel de Dieu. Pas juste pour le ministère pastoral. Quelle que soit la vocation à laquelle tu aspires, Dieu peut parler à travers ça. C'est bon? Je vous laisse avec quelques devoirs, d'accord? J'avais plein de questions à vous poser, mais j'avais peut-être un petit peu trop de matériel pour aller avec plein de questions. Je vous laisse avec des choses que peut-être vous pourriez travailler cette semaine. Où sont mes petits devoirs? Des exercices à faire. Choisis une tâche banale cette semaine. Et demande-toi en quoi Dieu t'appelle à le faire. Exécute-la en réalisant qu'à ce moment-là, c'est une vocation. Ça peut être à la maison, ça peut être ici, mais embrasse intentionnellement une tâche complètement banale en prenant conscience qu'à ce moment-là, c'est ta vocation. Ça peut être aussi simple que passer le balai. D'accord? Regarde dans ton cœur cette semaine si le travail est pour toi soit quelque chose à fuir ou quelque chose que tu as tendance à vénérer. Tu veux te réaliser à travers le travail. On va en parler. C'est correct qu'il y a une place pour ça, mais ça peut devenir une forme d'idolâtrie à un moment aussi. Donc, prends le temps d'évaluer cette semaine si tu as tendance soit à voir le travail comme quelque chose à fuir ou quelque chose à travers lequel tu voudrais trouver tout le sens de ton être. Ça devient une forme d'idole. Et ça, c'est une réflexion à commencer que je vais t'inviter à garder pendant l'ensemble du cours. Identifie une personne, troisième élément, identifie une personne dans ton entourage dont le travail est invisible. Et va la remercier. Est-ce que tu es capable de penser tout de suite à une personne dans ton entourage dont le travail est presque invisible? Ça peut être à l'église, ça peut être au travail, ça peut être le concierge dans l'immeuble où tu habites, je ne sais pas, peu importe. Est-ce que tu es capable de penser à une personne dont le travail est généralement invisible et que tu pourrais les remercier cette semaine pour son travail? On va aller ensemble dans la prière. Je vais donner quelques informations pour les prochaines leçons. Et j'espère que vous allez être bénis à travers cette session-là où on va parler de ces belles vocations que Dieu place sur nos vies. Seigneur Jésus, merci pour le travail. Tu sais, Père, que personnellement, j'ai un rapport problématique parce que j'aime énormément le travail. Je pourrais m'y perdre sans fin, Seigneur. Tu nous as donné le travail pour être à ta ressemblance. Tu nous as placé dans notre ADN le fait d'être des travailleurs, avec toutes sortes de vocations différentes dans différentes saisons de notre vie. Je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui voient le travail comme un fardeau terrible, comme la malédiction de Dieu, il faut travailler, alors que cette malédiction était simplement le travail ardu, le travail sans fin. Seigneur, je te prie pour ceux qui voient le travail comme quelque chose à fuir, je te prie de les aider à embrasser leur vocation pendant cette session. Je te prie, Père, pour ceux qui se réalisent uniquement à travers le travail, qui en viennent à en faire une forme d'idole dans leur vie. C'est là qu'ils cherchent à s'accomplir. Je prie de leur montrer, Seigneur, que ce n'est qu'une vocation parmi d'autres. Je prie pour ceux, Seigneur, qui ont une mauvaise théologie du repos et du loisir. Je prie de les faire évoluer à travers ce cours. Je te prie pour ceux qui sont là, disponibles, et qui disent « Oui, mais je ne sais pas c'est quoi ma vocation. » Je cherche ma vocation. Je prie pour ceux qui se préparent à entrer dans une vocation, qui se forment, qui étudient. Je te prie pour ceux qui sont à la retraite, Seigneur, qui ont peut-être une mauvaise théologie de la retraite. Et je te bénis pour tous ceux qui ont une bonne théologie de la retraite, Seigneur. Aide-les à être sages, à prendre soin de leur santé aussi en vieillissant. Merci, Seigneur, pour les millions de personnes qui travaillent dans notre société, pour les milliers de personnes à Longueuil actuellement qui travaillent pour que les routes soient sécuritaires, que les eaux, que les aqueducs fonctionnent, qu'on ait de l'électricité. Merci pour ceux qui ont travaillé cette semaine à entretenir ce bâtiment. Merci pour toutes les institutions qui fonctionnent, Seigneur. Les épiceries, les commerces, les cultivateurs, les éleveurs, Seigneur, les hôpitaux, c'est incroyable. C'est vrai, c'est un miracle de voir ça. Tous ces gens qui embrassent une vocation, Seigneur. Et que nous, dans nos milieux de travail, on puisse enrichir la vision que les gens ont de cette vocation que tu as placée sur leur vie. Qu'on puisse les aider à voir combien c'est noble, combien c'est beau, même quand ça peut sembler banal, Seigneur. Seigneur, merci pour le travail. Merci pour le travail que tu nous donnes. Et enfin, j'aimerais te prier pour ceux qui se cherchent un travail. Ceux qui sont dans une situation où ils disent « Mais je voudrais travailler, j'ai besoin de travailler. » Il y en a plusieurs dans l'Église, Seigneur. Pourvois un travail, Père. Pourvois un travail, mon Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci. Alors, la semaine prochaine, c'est notre chercheur d'Hydro-Québec, pasteur Basile Agba, c'est ça, hein, la semaine prochaine, qui va enseigner. Je reviens la semaine d'après. Vous avez des copies des notes derrière. Si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'avez pas reçu un courriel cette semaine, c'est que vous n'êtes pas inscrit. Si vous désirez recevoir par courriel les notes de cours ou aller reprendre des leçons si vous en manquez, puisque ce cours-là est enregistré, vous pouvez juste vous inscrire, vous allez recevoir un lien. Si vous désirez vous procurer le livre, François est là avec un lien aussi si vous préférez le prendre en… Donc, vous pouvez le commander en français, je le trouve très cher, 48 $ en papier, mais 17 ou 18 $ en version Kindle, en version électronique, ou vous le commandez comme moi en anglais. D'accord? Que Dieu vous bénisse.